Merci d'être à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 16h à Paris et 18h30 à Téhéran. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, cet appel à l'aide dans les médias lancé par un détenu français en Iran et ses proches. Olivier Grondeau, c'est son nom, a décidé de sortir de l'anonymat pour tenter d'obtenir sa libération et alerter sur ses conditions de détention. Une ressortissante allemande, elle, vient d'être libérée. Alors qu'aux États-Unis, les incendies à Los Angeles font rage et que les prévisions ne sont pas bonnes, des vents violents sont de nouveau annoncés, l'entraide s'organise, des collectes se montent pour les sinistrés. Et puis dans le monde, les riches ont déjà mangé leur budget carbone pour l'année qui vient à peine de commencer. C'est la conclusion d'une étude menée par Oxfam. Pauline Glaise nous expliquera à la fin de ce journal. C'est l'épuisement qui le fait sortir de son anonymat. Olivier Grondeau a décidé de parler. Ce Français détenu en Iran appelle à l'aide depuis sa prison d'Evin. Incarcéré depuis plus de 2 ans, il s'adresse à tous ceux qui ont le pouvoir d'influer sur cette affaire. Il confie que ses forces s'épuisent, comme celles de 2 autres ressortissants français, Cécine Colère et Gilles Paris, emprisonné en Iran. Arrêté en octobre 2022, il a été condamné à 5 ans de prison pour complot contre la République islamique. Olivier Grondeau nie toutes ces accusations. Il était en Iran avec un visa de tourisme pendant un tour du monde. Un appel à l'aide qui intervient après l'annonce de 2 libérations de ressortissants européens. Après la journaliste italienne Cecilia Sala, c'est Naïd Taravi, germano-iranienne, qui est sortie de prison. Cette militante des droits des femmes a été rapatriée à Berlin. Naïd Taravi était elle aussi détenue dans la prison d'Evin pour propagande contre le régime. À Berlin, Pascal Thibault.
Naïd Taravi est arrivé dimanche à l'aéroport de Cologne-Bonn. Sa fille, Mariam Claren, qui se bat depuis plusieurs années pour la libération de sa mère, l'a accueillie. Elle a posté une photo sur le net avec les 2 femmes et a commenté « Après plus de 4 ans comme prisonnière politique en Iran, ma mère a été libérée et est de retour en Allemagne. » Naïd Taravi, une architecte de 70 ans, est une militante des droits de l'homme installée depuis longtemps en Allemagne. Comme d'autres binationaux, elle a été arrêtée lors d'une visite dans son pays d'origine en octobre 2020. Ses conditions de détention ont été très dures. Avant son procès, elle a été 7 mois à l'isolement. Elle devait dormir par terre, sans lit ni oreiller, et était surveillée 24 heures sur 24. Naïd Taravi a été condamnée à plus de 10 ans de prison en août 2021 pour appartenance à un groupe illégal et propagande contre le régime. Comme d'autres binationaux, Naïd Taravi avait été arrêtée pour des raisons politiques, pour faire pression sur Berlin. Contrairement au cas de la journaliste italienne Cecilia Sala, récemment libérée par Téhéran, aucune information sur un échange de prisonniers avec Berlin n'a filtré dans le cas de Naïd Taravi. Ravi. Pascal Thibault, Berlin RFI.
C'est dans ce contexte que commencent aujourd'hui des pourparlers sur le nucléaire iranien en Suisse avec les Européens. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni tentent de remettre sur les rails les négociations à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, lui qui s'était retiré en 2018 de l'accord durement négocié avec Téhéran. Au Liban, le Hezbollah est toujours visé par Israël malgré la trêve conclue fin novembre. Des frappes contre des sites de lancement de roquettes du mouvement pro-iranien, selon l'armée. Israël dit aussi viser des itinéraires de contrebande du Hezbollah le long de la frontière avec la Syrie. Dans une semaine, Joe Biden quittera la Maison-Blanche et il tente, dans la dernière ligne droite, d'arracher un accord au Proche-Orient. Les négociations ont repris au Qatar. Benjamin Netanyahou a fait part de progrès au président américain hier soir. Une délégation israélienne est à Doha depuis ce week-end pour négocier un cessez-le-feu à Gaza contre la libération des otages. Aux États-Unis, en pleine transition politique, les passes d'armes entre démocrates et républicains s'enchaînent sur les incendies à Los Angeles. Donald Trump accuse des politiciens incompétents qui n'ont aucune idée de la manière d'éteindre les feux. Sur le terrain, la lutte des pompiers est toujours acharnée. Le bilan humain s'est encore alourdi. 24 personnes ont été tuées selon un dernier décompte et les prévisions sont inquiétantes. Le vent va redoubler d'intensité dans les prochaines heures. Impossible dans ces conditions d'envisager pour le moment le retour des dizaines de milliers d'évacués. En attendant, la solidarité s'organise. Gerardo Romero est venu avec son entreprise sur le parking de l'hippodrome de Pasadena pour proposer des repas.
Nous sommes ici pour donner notre temps et pour nourrir tout le monde, et notamment avec des repas chauds. Il y a beaucoup de nourriture en boîte, mais nous voulons pouvoir donner maintenant pour qu'ils aient le ventre plein. Certaines personnes n'ont plus de maison, au moins, elles peuvent manger chaud tout de suite. Donc nous avons des hot dogs, des encas, tout ce qu'il faut pour manger chaud. L'hippodrome nous a gentiment autorisé à utiliser tout le parking pour organiser cet événement. C'est vraiment devenu le point central de tous les dons à Pasadena et à Altadena. Donc tout le monde dans les communautés du coin vient pour soutenir, pour donner de son temps. Cela me donne à la fois de l'espoir et de la fierté parce que c'est sans précédent, ça n'arrive jamais. Et voir la communauté se rassembler simplement pour soutenir et pour aider, c'est génial.
Gerardo Romero, interrogé par notre envoyé spécial à Pasadena, Guillaume Nodin. En parallèle, l'enquête sur l'origine des incendies se poursuit, mais avec pour l'instant toujours plus de questions que de réponses sur le départ des feux, même si les effets du réchauffement climatique, eux, sont évidents. Simon Rosé.
On ne connaît toujours pas le point de départ des incendies de Los Angeles, du moins pas avec certitude. Quelques pistes tiennent la corde, notamment pour celui d'Eaton, qui a emporté près de 6000 hectares au nord de la ville. Un pylône électrique serait en cause dans les montagnes en amont de la ville. Des témoignages et des photos font en effet état d'un départ de feu à sa base et des enquêteurs ont depuis été aperçus sur le site, désormais interdit au public pour ne pas perturber leur travail. Quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre se refusent pour l'instant à privilégier publiquement une piste plutôt que l'autre, d'autant plus que l'origine des autres incendies, comme celui de Palisades à l'ouest de Los Angeles, est toujours incertaine. Acte criminel, vieille braise ravivée, toutes les pistes sont ouvertes. Une chose est cependant sûre, la cause de l'ampleur du feu est quant à elle connue. Les vents intenses de Santa Ana, habituels pour la saison, mais rarement dans une telle intensité. Sur une végétation rendue très sèche par la sécheresse que connaît la Californie du Sud depuis des mois, en raison des effets du réchauffement climatique causé par l'homme.
300 soldats nord-coréens auraient été tués sur le sol russe. C'est un décompte des services de renseignement sud-coréens qui suivent de très près les agissements des troupes de Pyongyang. Kiev, Washington et Séoul accusent le régime de Kim Jong-un d'avoir envoyé plus de 10 000 soldats pour aider les forces russes dans leur invasion de l'Ukraine. Les nord-coréens qui seraient encouragés à se suicider pour éviter d'être capturés, toujours selon Séoul. De son côté, Moscou accuse aujourd'hui Kiev d'avoir attaqué le gazoduc Turk Stream à l'aide de drones. Le gazoduc est désormais la seule voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe depuis la décision de Kiev d'arrêter tout transit par son territoire. À Mayotte, la rentrée scolaire est reportée après le passage de la tempête Dikeledi, au plus tôt la semaine prochaine pour les enseignants, plus tard, sans date précise, pour les élèves. L'alerte rouge au cyclone a été levée dans l'île française, mais la tempête tropicale a causé de grosses inondations et de nouvelles pluies sont attendues sur un terrain déjà très fragilisé par le cyclone Chido il y a un mois. Alors que l'année a tout juste commencé, une enquête d'Oxfam analyse les empreintes carbone en fonction des richesses. Ce n'est pas une surprise, mais les écarts sont gigantesques. Les 1% les plus riches de la planète ont déjà consommé l'équivalent de leur budget carbone pour l'année. Au contraire, la moitié la plus pauvre du globe ne devrait pas utiliser le sien dans son intégralité. Définition de ce budget carbone avec Pauline Glaise.
On le sait, pour limiter le réchauffement climatique, il faut que l'humanité réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Les quantités à ne pas dépasser ont donc été estimées. C'est ce que l'on appelle le budget carbone restant. Et à horizon 2050, il faudrait se limiter à environ 2 tonnes par personne chaque année. C'est à peine plus qu'un aller-retour Paris-New York. Mais le pourcent le plus riche de la planète aurait déjà dépensé son budget en 10 jours. Cela comprend leur mode de vie, avec éventuellement des jets privés ou des yachts et leurs investissements. Alors ce n'est qu'une estimation, Oxfam a fait ses calculs à partir d'une base de données de 2019, mais cela donne une idée des inégalités. En une année, une personne appartenant à la moitié la plus pauvre n'émet que 0,7 tonnes, une appartenant au pourcent le plus riche en émet 76 tonnes. Le site français nosgesteclimat.fr propose aux internautes de calculer leur empreinte. Avis aux curieux.
Un mot du Vendée Globe, les côtes françaises se rapprochent pour Charlie Dalin, leader du Tour du Monde en solitaire sans escale. Le navigateur normand se trouve à 250 km de l'arrivée. Il est attendu au Sable d'Olonne demain matin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, sur le Pont des Arts, avec vous Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Karine Bellicha et à tout à l'heure. Sur le Pont des Arts, ça démarre dans 30 secondes.